Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici dans cet espace d'Uneton dans le cadre de la Foire du Livre de Brive. On est évidemment très heureux de vous retrouver ici, ça fait en tout cas vraiment, vraiment chaud au cœur et je vois que la salle est pleine, ce qui est ma foi fort sympathique et ce dès ce vendredi pour cette rencontre sur le thème, comme vous avez pu le lire dans le programme, des mémoires vives. Au fond, c'est ce qui peut lier ces ouvrages, mais ce n'est pas le seul élément, vous allez voir, qui réunit les auteurs ici présents, dont vous avez déjà peut-être lu les ouvrages, mais sur lesquels on va revenir. Et d'ailleurs, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez à ceci à la fin de ce débat. Anne Berès, tout d'abord, bonjour.
Bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Ouf,
c'est un petit peu de décalage horaire ou quelque chose comme ça. Donc, vous avez fait paraître en cette rentrée cette carte postale, ce gros livre aux éditions Grasset, où vous revenez sur tout un pan de l'histoire familiale et d'un mystère familial, avec un gros travail d'enquête sur lequel on va bien entendu revenir. Azouz Begag, bien le bonsoir. Alors vous posez cette question, puisqu'il manquerait presque un point d'interrogation, l'arbre ou la maison, voilà, c'est le titre de votre roman publié chez Julliard, et un titre ô combien allégorique, et sur lequel on pourra largement gloser, et notamment aussi sur votre parcours personnel et sur une anecdote personnelle, là aussi très emblématique, très symbolique, voilà. Et enfin Lily Hassen, bonsoir. Votre deuxième roman Soleil amer est sorti donc en cette rentrée. Là aussi, encore une fois, la question de la mémoire, de la transmission et des générations est au cœur du livre. Ça aussi, c'est aussi ce qui peut vous réunir, et on va évidemment revenir sur ces thèmes. Avant qu'on évoque évidemment chacun de vos ouvrages, j'aimerais vous faire rebondir sur ce qui vous unit officiellement, en tout cas dans le programme, cette question de la mémoire et des mémoires vives. Petite question, tiens, pour élève de terminale qui a envie de plancher sur une dissertation, voilà. Est-ce que pour vous, l'acte d'écrire, fondamentalement, en l'espèce un roman, un récit, est fondamentalement un acte de mémoire, même si le texte peut être très 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 éloigné de votre autobiographie? Pour vous, est-ce que écrire, c'est faire acte de mémoire? Je sais pas. Vous n'avez pas 2 heures, c'est automatique. Allez, je vais commencer avec vous, Lilia. C'est bien de se chauffer comme ça d'emblée avec un petit peu de...
Oui, alors c'est pas le cas de tous les livres, effectivement c'est le cas de celui-ci,
votre précédent entourage n'avait absolument rien à voir.
Non, il n'a absolument rien à voir, et c'est très bien. Effectivement, celui-ci c'est une mémoire au sens où c'est un pan de l'histoire de France assez méconnu, et c'est une mémoire aussi intime, puisque j'ai découvert en tout cas que c'était aussi une mémoire intime au fur et à mesure de l'écriture du livre. C'est-à-dire qu'au début j'ai voulu le traiter de manière un peu détachée, comme un roman comme les autres, puisque je ne parle pas de moi, mais de la génération de ma mère et de la génération de mes grands-parents. Et au fur et à mesure du livre, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait une quête inconsciente de retrouver des choses de ma mémoire, de la mémoire familiale, de ce qu'on transmet, de ce qu'on reçoit. Et voilà, donc c'est... Pour le cas de ce livre, effectivement, c'était un travail de mémoire.
Azouz.
En ce qui me concerne, tout part de mes parents analphabètes. Il faut savoir que dans l'après-guerre, des millions de migrants venus d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, certes, mais aussi d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Pologne, sont venus prêter leurs mains à la reconstruction de la France. La plupart étaient des paysans, des gens déstructurés par la violence de la colonisation chez nous, et qui n'avaient d'autres possibilité de survivre, eux et leurs enfants, que de venir en France, analphabètes, non francophones. Et ce sont des gens qui n'ont transmis aucune mémoire, si ce n'est quelques bribes de mémoire dite orale. Alors vous comprenez que nous, les enfants qui sommes allés à l'école de la République française, ayant acquis cet outil de l'écriture et de la lecture, nous faisons une œuvre de mémoire très importante pour des générations et des générations. Et c'est ô combien important pour inscrire la présence d'une population comme la nôtre et de nos enfants dans cet espace français.
Enfin, Anne, pour vous.
En 2014, le fils de François Sagan m'a demandé d'écrire un livre sur sa mère. Et moi, je connaissais très peu François Sagan. J'avais lu Bonjour Tristesse, mais ça s'arrêtait là. Et ce livre de commande a pour moi été une révélation. C'est-à-dire que j'ai découvert que j'aimais écrire sur le passé. Et, mais pas seulement sur le passé, c'est-à-dire mettre en regard le présent et le passé et se poser la question de qu'est-ce qui survit en nous de cette histoire avec un grand H. Et donc ça a été un tournant dans mon travail d'écrivain. Et puis ensuite, j'ai continué ce sillon-là avec Gabriel, le livre que j'ai écrit avec ma sœur, et puis aujourd'hui avec la carte postale. C'est comme si j'avais trouvé dans ce travail-là, lié à la mémoire, mon pays d'écrivain.
Alors justement, la carte postale qui a donné lieu à votre, qui est le prétexte à votre livre, qui est le point de départ en quelque sorte, elle est bien réelle. Quelle est-elle, cette carte postale, justement ?
Elle est reproduite
sur la couverture.
Vous avez le recto et le verso. Et cette carte postale, nous l'avons reçue, enfin ma mère l'a reçue en 2003. C'était un jour de grande tempête. Il avait neigé dans toute la France, les avions étaient bloqués, les gens ne pouvaient plus rentrer de vacances. Et cette carte postale, au milieu des cartes de vœux, nous arrive et elle est anonyme. Cette carte postale, donc vous la voyez reproduite, nous présente seulement 4 prénoms. Et quand ma mère lit ces 4 prénoms, elle les reconnaît. Elle sait qui ils sont, puisque ce sont ses grands-parents, son oncle et sa tante, qu'elle n'a pas connus parce qu'elle est née en 44 et que eux ont été déportés en 1942, sont morts dans les chambres à gaz à Auschwitz. Et quand on reçoit cette carte postale, tout de suite, elle convoque la famille, mon père, mes sœurs, elle nous dit « Regardez ça », et on n'a aucune idée, mais aucune, de qui a pu nous envoyer cette carte postale. Et c'est un objet qui nous semble étrange, désagréable, il y a des trucs bizarres, le timbre est à l'envers. Pourquoi ? Elle représente l'opéra Garnier. Et immédiatement, si on pense à la Seconde Guerre mondiale et qu'on a l'image de l'opéra Garnier en tête, on sait que c'est l'endroit où se retrouvaient tous les Allemands pendant la guerre, parce qu'ils étaient mélomanes et qu'ils se retrouvaient là à écouter de la musique. Donc cette carte postale, elle nous a gênés. Elle nous a mis mal à l'aise et on n'y a pas repensé pendant 15 ans. Ma mère l'a mise dans un tiroir. Elle l'a rangée dans un tiroir où elle avait rangé aussi l'étoile juive, une des étoiles juives de son oncle qu'elle avait retrouvée. Et pendant 15 ans, on n'en a pas parlé. Et un jour, j'ai décidé de savoir qui l'avait envoyée coûte que coûte. Ça m'a pris 4 ans.
Mais justement, quand vous avez décidé de savoir quelle était l'origine de cette carte, est-ce que vous aviez déjà en tête l'idée d'un livre ou c'était
non,
juste
pas du
une
tout.
Carte personnelle ?
Non, pas du tout. Moi, quand je vis ma vie, je ne la vis pas en pensant que je vis dans un roman. Je vis ma vie. Et au bout d'un moment, en faisant l'enquête, je me souviens, c'est quand je suis sortie de chez Duluc Détective.
Dites-nous justement ce que c'est ça.
Donc Duluc Détective, ce sont des détectives privés assez connus. Hein, c'est une agence.
Est-ce qu'il reste encore des détectives privés en France, notamment
oui,
à Paris.
Dans toutes les villes, il y a des détectives privés. Et donc moi, je suis allée avec ma mère. Dans le livre, j'y vais toute seule, mais en vrai, je suis allée avec ma mère. On est allé chez Duluc Détective, et là, la scène était tellement ahurissante. On avait l'impression d'être dans un film. Qu'en sortant, je me suis dit, peut-être que je vais prendre des notes, et peut-être que je vais écrire cette histoire. Mais quand je me suis lancée dans l'histoire pour la raconter, comme un polar, je me suis dit, mais ce qu'on vit, c'est comme un roman policier. Vrai, mais moi, contrairement à un auteur de polar, je savais pas quelle serait la résolution. Et je ne savais même pas s'il y aurait une résolution. Je ne savais pas si j'allais trouver l'auteur de la carte postale. Donc, pendant 4 années de recherche, d'écriture, parfois j'étais désespérée. Je me disais, je ne trouverai jamais la résolution. Les lecteurs vont être furieux. Ils voudront être remboursés du livre. Et donc, je me suis dit, il faut que l'enquête soit intéressante.
Alors, Anne Berest, on vous connaissait comme romancière. Vous aviez signé pour le coup de vrais pure fiction auparavant, notamment, enfin, je mets de côté le livre autour de votre aïeul, bien sûr, mais vous êtes également scénariste. D'ailleurs, juste des félicitations tout de même, Anne, parce qu'il Merci. Me semble que vous avez participé à l'écriture du scénario d'un film dont on risque de parler dans les prochains jours, c'est l'événement, l'adaptation du livre d'Annie Ernaux, qui a eu le Lion d'Or, donc Félicitations, c'est bien le moindre des choses. Un film absolument remarquable, ne le ratez pas. C'est une très belle adaptation d'Ernaud sur un sujet très fort, qui est celui de l'avortement dans une période où il n'était pas forcément.
C'était interdit.
Tout simplement, voilà. Et enfin bref, en tout cas, c'est un film très très fort. Et donc, bravo aussi pour ce film. Mais justement, je vois la couverture du livre. C'est un roman. Alors justement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce titre ou c'est juste un alibi d'éditeur ?
Non, on a beaucoup parlé avec mon éditeur, savoir si on mettait roman par roman. Pour moi, c'est un roman vrai, c'est ce que j'appelle un roman vrai, c'est-à-dire tout ce que je raconte est vrai. Mais ensuite, je le romance. Alors, je vais vous donner un exemple. L'enquête, j'ai mis 4 ans à la faire. Dans le livre, elle dure sur 4 mois. Parce qu'en fait, dans un livre, vous avez besoin que les choses se passent vite. Dans le livre, on a l'impression que tout s'enchaîne, qu'un événement en apporte un autre, j'ai une piste, puis j'en ai une autre. Et si j'avais raconté l'enquête sur 4 ans, le lecteur se serait ennuyé mortellement. C'est en ça que l'appellation roman est pertinente. Parce que, avec la dramaturgie, avec les outils narratifs.
Vous utilisez d'ailleurs des techniques de roman policier.
Oui.
Au cœur même du livre.
Oui. Donc. Il y a cette savoir-faire-là, cette technicité-là, mais en revanche, tous les événements, tout ce qui arrive est vrai.
Par ailleurs, on parle véritablement de cette enquête pour l'histoire de cette carte postale, pour apprendre des choses sur votre famille, mais aussi il y a des choses que vous saviez déjà et que vous pouvez nous livrer dans cet ouvrage. C'est aussi un hommage à votre famille qui a d'ailleurs beaucoup voyagé et qu'on retrouve dans de nombreux pays.
En fait, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à écrire le livre, au début, le livre ne devait être que l'enquête. Et je me suis dit, mais pour que les lecteurs aient autant envie que moi de découvrir qui est l'auteur de la carte postale, en fait, il faut qu'ils sachent qui sont ces gens. Et donc là, je me suis attelée à écrire ce qui, dans le livre, est la première partie, mais que j'ai écrit après. Et qui est toute l'épopée de ces gens, c'est-à-dire qu'on part de 1919 en Russie, et puis en voyage en Lettonie, en Palestine, ils vont vivre à Haïfa, en France, la montée de l'antisémitisme, l'arrivée de la guerre, etc. Toute cette épopée-là, pareil, elle est vraie. Les adresses sont vraies, les dates sont vraies. Tout est... Mais ça, c'est grâce aux recherches de ma mère. Ma mère, pendant 20 ans, a fait des recherches sur sa famille pour pouvoir reconstituer, à travers des archives, vraiment leur parcours. Parce qu'elle, elle savait rien sur eux.
On peut vraiment le lire aussi, cet ouvrage, comme une grande saga familiale. Insistons aussi sur le côté vraiment plaisir du lecteur qui dépasse simplement votre histoire personnelle et l'histoire de votre famille. Mais au fond, pendant toute notre lecture, vous nous interrogez sur le sens d'un mot, sur l'identité, sur ce que ça veut dire qu'être juif. Qu'est-ce qui signifie ce mot ? Ça, c'est aussi au cœur de votre carte postale.
Oui, c'est un mot. Moi, j'ai été élevée par des parents 68ards, hyper laïques, socialistes, profondément socialistes. Et donc, il n'y avait pas de religion à table. Et comme toute ma famille avait été déportée, il n'y avait pas non plus de culture juive. Et puis un jour, j'étais petite, notre maison a été taguée d'une croix gammée. Bizarrement, c'était la seule maison du quartier et bizarrement, on était les seuls juifs du quartier. Donc, est-ce que c'était un hasard ? On ne sait pas. Une semaine plus tard, après la croix gammée, on a une croix du Gude sur la maison. Et moi, j'étais petite et pour la première fois, j'entends dans ma tête, enfin autour de moi, j'entends ce mot juif. Mais je ne savais pas ce qu'il voulait dire. Mais simplement, je comprends à ce moment-là, à cause de cet acte antisémite, que ce mot me désigne. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Et donc tout le livre est aussi une quête identitaire pour essayer de définir ce que ce mot, pour moi, qui ne suis pas religieuse, qui n'est pas la culture juive, ce qu'il peut signifier.
Anne Berest, votre livre a été en lice pour le prix Goncourt et toujours en lice pour le prix Goncourt des lycéens. Je vous évoquais ça juste avant cette rencontre. Est-ce que vous avez eu déjà des témoignages de jeunes lecteurs ? Je sais que vous attendez en tout cas les rencontres avec tout ce jeune public. Pour vous, est-ce que c'est aussi un livre écrit pour de très jeunes lecteurs ?
C'est pour eux que je l'ai écrit. J'ai eu vraiment un souci dans mon livre très pédagogique. Il y a des gens parmi vous, j'imagine, qui connaissent très bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des choses, vous allez lire, vous allez vous dire, oui, ça, je le sais déjà. Mais les jeunes ne savent pas. Et donc, je me suis dit, tant pis pour ceux qui savent déjà, ils sauteront des pages, mais c'est très important de revenir sur des choses. Là, c'est intéressant, j'ai interrogé des lycéens autour de moi pour un peu préparer mes entretiens avec les lycéens à venir. Par exemple, La liste de Schindler est un livre que les jeunes générations n'ont pas vu.
Un film. Voyez le lapsus.
Un film qu'ils n'ont pas vu. Si je leur dis Inconnu à cette adresse, ils ne l'ont pas lu. Si je leur dis Maus, qui pour moi, à ma génération, étaient des BD incontournables, ils ne connaissent pas. Donc là, je me suis dit, OK, ce livre, il est important. Je suis contente de faire Goncourt des lycéens, Renaudot des lycéens, Fémina des lycéens. Je vais tous aller les voir parce qu'en fait, il faut que cette mémoire ne se tarisse pas.
En tous les cas, voilà, sur ce sujet qui peut sur lequel on pourrait se dire on a déjà lu beaucoup de choses, vous apportez encore des éléments et on le lit vraiment avec plaisir. Et ça aussi, ça compte, c'est essentiel.
Et oui, j'ai eu la chance de faire un entretien avec Serge Klarsfeld il y a 2 jours. Et Serge Klarsfeld, qui est quand même une référence, m'a félicité pour mon livre et m'a dit qu'il l'avait lu avec grand intérêt. Alors, pour moi, ça valait le prix Goncourt.
Voilà, en tout cas. Merci beaucoup Anne. Lily Hassen, justement vous aussi, vous avez été sélectionnée parmi la liste des jurys Goncourt cette année. Vous êtes en lice donc toujours pour ce prix Goncourt des lycéens. Même question pour Anne, puisqu'en même temps la question de la transmission, la jeunesse est aussi au cœur de Soleil et Mer. Est-ce que vous avez eu déjà des témoignages de jeunes lecteurs sur votre ouvrage?
Oui, un peu comme Anne, parce qu'il y a une méconnaissance des sujets dont je parle. Donc forcément, ils entendent à la télévision des mots, les mots immigration, les mots intégration, des mots qui veulent rien dire. Et en fait, ils savent pas. Ils savent pas ce qu'il y a derrière. Et le fait de remettre un peu d'humanité derrière ces mots-là, d'expliquer effectivement qu'il y a des familles, qu'il y a des vies, qu'il y a des parcours individuels, des parcours collectifs, finalement, ils apprennent plein de choses. Et voilà, je sais pas si c'est pas forcément écrit pour les jeunes ou voilà, c'est écrit pour tout le monde. Et au début, je l'ai écrit aussi pour retrouver, je pense, et pour comprendre moi-même cette histoire.
Alors, Lily Hassen, donc vous êtes journaliste, vous êtes passée par la case presse écrite. Aujourd'hui, on vous voit à la télévision. Vous avez publié un premier roman très poétique. Étonnant, et donc on vous redécouvre en cette rentrée avec ce Soleil amer. C'est pas un hasard si je parlais de poésie au sujet de votre premier roman, car le titre de Soleil amer est un clin d'œil à un grand nom, et c'est le moins qu'on puisse dire, de la poésie française, n'est-ce pas?
Voilà, Arthur Rimbaud, c'est un extrait du Bateau ivre, les aubes sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer.
Pourquoi vous avez choisi cet extrait retrouve dans l'ouvrage?
Alors parce que au début je cherchais un titre qui avait un rapport avec la lune, étrangement, parce que j'avais en tête que c'était vraiment l'astre de la maternité, et il y avait vraiment cette question des femmes et de ma mère qui m'a aussi raconté beaucoup de choses pour écrire ce livre, et donc je cherchais un titre avec la lune, et en lisant en relisant le Bateau ivre, je suis tombée sur ce vers, et c'est le soleil qui m'a frappée le premier, parce que le soleil de Camus, parce que effectivement les premières pages de mon livre, c'est des pages qui sont ensoleillées, et quand on pense à l'Algérie, on pense à ce soleil, et l'amertume, qui est un sentiment qui est partagé par beaucoup d'immigrés, d'enfants d'immigrés. Donc je sais pas, j'étais frappée par cet oxymore. Et je me suis dit que je ne trouverais pas mieux que Rimbaud. Enfin, je ne ferais pas mieux, en tout cas.
Alors, si les premières pages sont ensoleillées, ça va un petit peu se compliquer après, puisqu'on va passer de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est justement ce que vous racontez dans ce roman, notamment autour du personnage d'une mère et de 3 filles.
Voilà, exactement. Je ne sais pas s'il faut que je raconte.
Il faut que nous ayons les éléments narratifs, parce que tout le monde n'a pas lu votre roman.
Oui, tout le monde n'a pas lu l'histoire. Donc, c'est l'histoire de Naja, effectivement, qui vit en Algérie. On est à la fin des années 50. Et elle élève ses 3 petites filles seules, Sonia, Mariam et Nour. 3 petites filles très heureuses. Mais leur père est parti travailler en France dans une usine automobile, l'usine Renault, où il a été recruté pour travailler en France. En fait, c'est une
comme tant d'autres hommes de sa génération.
On dit peu, parce qu'on pense souvent que l'immigration, c'est des gens qui sont partis d'eux-mêmes, mais il y a eu aussi un appel d'air, soit par cooptation, quand un immigré disait à son frère « Viens, il y a du travail dans mon usine », soit parce qu'on allait recruter aussi les gens sur place. Et lui, qui était berger, a eu effectivement à rencontrer un recruteur français qui cherchait des jeunes hommes travailleurs et solides. Et il est arrivé en France avant sa femme et ses trois petites filles, qui ont pu le rejoindre quelques années plus tard. Le problème, c'est que tout ce temps sans leur père, c'est un temps où lui s'est retrouvé donc seul, sans sa femme, dans des foyers pour travailleurs immigrés, donc sans contact charnel, sans contact tout court. Et c'est des hommes qui ont plongé peu à peu aussi dans l'alcool, ou en tout cas qui ont pu vivre certaines dérives. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a fait venir les femmes et les enfants. C'était aussi pour encadrer ces hommes-là qui partaient un peu à la dérive. Et donc elle rejoint son mari, elle ne le reconnaît plus, c'est un homme qui a plongé dans l'alcool, et elle pense trouver un Eldorado en France, et en fait elle se retrouve dans une petite maison vétuste, sans contact avec, comme elle avait en Algérie, elle avait sa famille autour d'elle. En France c'est pas du tout le cas, et elle tombe enceinte, ce qui n'était pas du tout prévu. Encore une fois, elle n'a même pas 30 ans, elle a trois petites filles, elle avait perdu un enfant en Algérie, elle retombe enceinte une autre fois. Et il se trouve qu'elle a fait la connaissance de sa belle-sœur en arrivant en France, qui est française, qui s'appelle Ève. Elles ont à peu près le même âge, mais elles n'ont pas du tout la même vie. Ève est issue d'une famille plutôt bourgeoise, elle a accès aux livres. Et les deux femmes ont de nombreux points communs malgré leurs différences. Mais Ève ne peut pas avoir d'enfant. Naja, elle, est tombée enceinte. Et donc, elles se mettent d'accord pour donner l'enfant à la naissance.
Mais... Point de suspension.
Je ne vais pas dire ce qui
voilà,
se passe.
Voilà, c'est ça. Puisqu'évidemment, l'intrigue va prendre un tour très inattendu.
Je ne vous dis pas.
Je n'en dis pas plus. Vous êtes d'accord, on va pas...
Non, c'est bien. C'est okay. Très bien.
En tout cas, donc, Lilia, on va suivre le parcours donc, de cette famille, donc, cette mère et ses trois filles, pour l'essentiel, même si évidemment d'autres personnages seront importants. Justement, je veux insister sur ces personnages féminins. Est-ce que vous avez cherché à travers toutes ces femmes à montrer des choix de vie et des parcours différents, des positions, morales, sociales différentes?
Oui, alors par exemple, les trois filles, on suit leur destin. On les découvre enfants, et puis on les suit jusqu'à l'adolescence, jusqu'à l'âge adulte, comme on va suivre aussi d'autres personnages. Et ces petites filles, en grandissant, en fonction de leur place aussi dans la fratrie, elles n'ont pas du tout les mêmes contraintes. Forcément, la fille aînée porte beaucoup plus le poids des traditions que ses sœurs cadettes, mais c'est le cas dans toutes les familles. La position de l'aînée, c'est une position où les parents veulent bien faire, donc c'est forcément plus compliqué. Et donc, à travers aussi ces différences intrafamiliales, je voulais montrer que la femme maghrébine qu'on caricature souvent, en fait, dans les fratries, en fonction de la position de la fille aînée et la cadette, elles ne sont pas du tout élevées pareil, comme dans n'importe quelle famille. Elles n'ont pas du tout les mêmes destins aussi, parfois. Et c'était aussi pour montrer le caractère individuel de ces femmes qui s'en sortent parfois aussi très bien. Donc c'était pas forcément pour montrer différents types de personnes, mais c'était pour coller au mieux à la réalité.
Justement, vous prenez bien garde à ce que les personnages qui pourraient être schématiques ne le soient jamais. Vous trouvez toujours un petit détail pour les humaniser et créer leur différence et leur statut de véritable personnage et pas seulement de fonction. Lilia Sen aussi, et c'est aussi ce qui peut vous rapprocher d'Azouz Begag, vous montrez à quel point ces personnages ont un problème dans leur identité, c'est-à-dire qu'ils se sentent étrangers aussi bien en France qu'en Algérie d'une certaine manière, et ils se retrouvent pratiquement dans une situation kafkaïenne en quelque sorte.
C'est ça, ces hommes qui sont venus travailler en France avaient encore ce désir du retour. Ils se sont installés parce que pour travailler, ils pensaient travailler quelques années et retourner au pays. Il se trouve qu'au bout de quelques années en France, ayant un emploi stable, souvent, ils ont eu leurs enfants en France, ils ont eu de nouveaux enfants en France, des enfants français donc. Et la question du retour, c'est plus posé de la même manière. Alors parfois, il y a beaucoup, même dans mes grands-parents, je vois, certains ont vécu toute leur vie avec ce désir de repartir. Mais ils se retrouvaient confrontés à une situation effectivement très, très complexe. Quand ils retournaient en Algérie pour les vacances ou parfois juste pour retourner, ils n'étaient plus algériens, en fait. On leur faisait comprendre qu'ils n'étaient plus algériens. Moi, mon père, quand il est retourné, ils ont voulu retourner avec sa famille en Algérie. Il était tout jeune, et arrivé là-bas, les douaniers ont pris toutes leurs affaires. Et donc, ils se sont retrouvés en Algérie, mais dans la misère la plus totale. Donc, ils sont revenus en France parce que leur père avait du travail en France. Donc, en fait, c'est des situations comme ça. On ne se rend pas forcément compte, mais c'est très compliqué entre un pays, l'Algérie, qui vous considère plus comme son fils, et la France, où forcément, dans les années 70, avec la montée du chômage, on a vu aussi la montée du racisme, etc. C'est des gens qui se sentaient nulle part.
Votre roman aussi est assez troublant parce que vous explorez pratiquement un demi-siècle, enfin voilà à peu près, et pourtant le roman est très bref, très rapide, comme si encore une fois il y avait cette évolution qui passait comme un éclair. Comment est-ce que vous avez justement travaillé le récit pour que le temps passe aussi vite, parce qu'il y a véritablement un gros travail littéraire, notamment sur le rythme général?
Justement, je me suis dit, enfin, en l'écrivant, que si je voulais brosser 2-3 générations, on s'attend forcément à ce que le livre fasse 1500 pages.
C'est un peu justement la démarche inverse d'une certaine manière d'Anne, qui au contraire a choisi pratiquement le roman fleuve en quelque sorte.
Non, mais c'est des partis pris. Et je pense que comme j'avais c'était comme un diaporama, j'avais des photos, j'avais des souvenirs, mais très morcelés, et j'ai voulu le garder comme ça. Donc c'est un choix, voilà, c'est des choix différents, parce que justement, moi, j'ai pas fait une enquête, j'ai voulu garder ce côté diaporama photo, et j'ai senti qu'en faisant ce choix-là, j'arriverais à quelque chose, mais je savais pas quoi. Et en effet, le fait de me prendre un peu tout ça dans la figure à chaque fois, des scènes qui sont assez fortes, parfois violentes, parfois très belles, mais de les mettre côte à côte au fur et à mesure, je suis arrivée à la fin du livre, j'étais très très émue, et j'ai été surprise moi-même par la fin de mon livre, et en me disant c'est fou, je pensais que j'étais détachée de cette histoire, et finalement pas du tout.
Pourquoi ne pas avoir fini le livre quelques années plus tard et seulement à la fin des années 90? On aimerait voir la suite d'une certaine manière.
Parce que j'avais envie de rester sur cette période charnière. C'est une période qui est très peu, qui est assez peu racontée en fait. Les années 60, 70, 80, il y a beaucoup de récits sur la banlieue des années 90, 2000, ou la période encore antérieure. Et cette période pour moi était déterminante. Azouz en parle aussi, mais c'est une période qui est extrêmement importante pour comprendre aussi les problématiques actuelles. Et ce qui s'est passé après, en fait, au fond, on le connaît, on le sait tous. Je voulais vraiment parler d'aspects même historiques, c'est des morceaux d'histoire de France, mais qu'on ne connaît pas.
En tout cas, on va retrouver tout ce pan d'histoire de France et d'Algérie aussi dans votre Soleil amer, votre roman donc chez Gallimard. Azouz, maintenant je vais me tourner vers vous, et je vais commencer peut-être pas immédiatement par votre roman, mais pour rebondir sur cette question de l'importance des livres qui font lire et qui sont lus par un jeune public. Vous avez une expérience incroyable avec Le Gaune du Chabat, qui a été lu déjà par plusieurs générations, pardonnez-moi, enfin voilà, et par un jeune public, enfin voilà, et qui vous a mais plébiscité. Ça a été un livre important pour de très 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 nombreux jeunes.
Là, il n'est pas disponible, mesdames et messieurs, sur le stand, parce qu'il est en rupture de stock.
Absolument,
il est en rupture de stock.
Voilà. C'est combien d'exemplaires? C'est énorme, c'est un chiffre incroyable. Ça a été une aventure éditoriale et littéraire.
Ouais, c'est 3 millions d'exemplaires. Oui. J'ai remplacé Albert Camus. Enfin, dans les collèges.
Hein. Camus qui fait d'ailleurs aussi le lien entre vos deux livres.
Ah, je suis content. Parce que je pensais que... Vous savez, je suis né dans un bidonville, hein, tout le monde le sait, à Brive-la-Gaillarde. Je suis venu en parler plusieurs fois ici. Et puis 20 ans après, je vous ai parlé de mes parents qui ne parlaient pas français, qui étaient analphabètes, comme tous les gens qui habitaient dans ce bidonville lyonnais d'ailleurs. Puis voilà, je me retrouve 30 ans plus tard à l'université, puis sur cette trajectoire française, hein, qui reconnaît les talents et les mérites des citoyens, quelles que soient leurs origines, leurs religions, et qui les pousse à grimper au sommet. Et puis je me suis retourné en 1985 sur ce que j'avais déjà réalisé, puisque j'étais sorti de ce bidonville. J'ai déjà raconté cette blague où un gamin m'a dit il y a quelques mois, « Monsieur Azouz Begag, je peux te poser une question. » Oui. C'est vrai que tu es né dans un bidon d'huile? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais comment tu es sorti? Eh bien, voilà comment on devient écrivain. Quand un enfant vous pose une question comme ça, comment sort-on du bidon d'huile? Voilà. Eh bien, on se jette à l'eau et on se met à écrire. On n'a pas peur et on nage. et même quand c'est à contre-courant, et on arrive au delta du bidon, on regarde comment les Français d'ici tournent le bouchon pour s'en sortir, et on fait pareil. Et c'est comme ça que la langue française et mes maîtresses d'école maternelle m'ont appris à nager dans l'huile bouillante, souvent, et m'en sortir. Eh bien, aujourd'hui, même tout à l'heure, je n'osais pas le dire, il y a un jeune homme de 45 ans qui est venu me dire « Monsieur Azouz Begag, j'ai lu ton livre quand j'avais 14 ans. C'est le premier livre que j'ai lu et c'est le dernier. » Franchement, ça me fait plaisir. Ben oui, parce qu'on a l'impression de servir à quelque chose, voilà. Non ? Et cela arrive dans toutes les villes de France où je me rends. J'ai des vieilles personnes de 45-50 ans que j'ai vues à l'âge de 14 ans, et parce que ce bouquin a été publié il y a 35 ans, et qui viennent me demander par quel miracle ce livre leur a plu, alors qu'ils ne sont pas du tout d'origine maghrébine. Et comment ça les a touchés ? En fait, c'est l'esprit français là-dedans. Il y a cette révolution française qui dégage le piston, abolit les privilèges et qui permet à tous les gueux, tous les enfants de gueux, de sauter dans la course à la méritocratie et d'y arriver. C'est cette histoire typiquement française qui m'a fait découvrir sur le terrain de l'écriture.
Est-ce que je dois vous appeler monsieur le ministre?
Oui,
ou pas?
J'aime beaucoup. Faut... J'ai mis ma Légion d'honneur d'ailleurs ce soir.
C'est ça,
afin
les petites
que
choses
vous respectiez le protocole, cher ami.
Ah non, je croyais que c'était une petite tache de ketchup, pardon.
J'ai tellement de blagues à raconter. Vous savez, quand je suis sorti de ce bidonville, après, il faut ramer parce que quand vous avez des parents super pauvres qui sortent de nulle part et qui ne savent même pas comment vous raconter leur histoire parce qu'ils sont nés à Sétif, mes parents, à Sétif.
Qui est au cœur du livre.
Bon sang, le 8 mai 1945, dans le village de mes racines, il y a des milliers de personnes, des indigènes, qui sortent dans la rue et qui disent à la France, nous voulons nous aussi l'indépendance, nous voulons la liberté, nous voulons la liberté. Il y a eu 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 morts. Pendant 3 mois, l'armée française a massacré tout le monde. Mes parents ont vu ça. Eh bien, nous sortons de cette histoire. Et je suis retourné, donc tu ne l'as pas dit, mais je le dis à ta place, il y a 3 ans, en 2019, en Algérie avec mon frère, qui est un vieux arboriculteur.
Oh, il est très différent de vous, en tout cas.
Ouais, c'est un arboriculteur.
La description que vous faites de lui, on est deux opposés.
Il en a marre des gens, il ne veut plus parler aux êtres humains, il veut seulement parler aux arbres.
Et justement, l'arbre.
Voilà, et on va au bled pour voir comment... Mes deux parents sont morts, ils sont partis. Et la maison qu'ils ont construite là-bas, c'est cette maison qui a fait qu'ils ressemblent tellement, ces migrants, à tous mes amis portugais, espagnols, italiens et polonais, qui eux aussi, dès qu'ils ont mis un pied en France, ont tout de suite commencé à mettre en application le mythe du retour au bled. Le mythe du retour au bled avec quoi ? Avec une maison. Ils ont tous construit la même baraque au bled. Que ce soit dans le Mediogiorno, dans Trashos Montes, au nord du Portugal, en Espagne, en Pologne, ils ont construit la même baraque avec les mêmes matériaux rudimentaires, cheap, vraiment cheap. Ils ont tous acheté leurs trucs à Brico Dépôt, pas cher. Et puis, ils ont le deuxième étage de la maison, pas fini.
C'est ça.
C'est-à-dire, il y a les armatures métalliques qui pointent au-dessus du béton, tout à rouiller. Mais ces deuxièmes étages qui n'ont jamais été construits étaient faits pour accueillir ces migrants qui naguère partir en Belgique, en France, en Allemagne, et qui ne reviendront jamais en réalité. Ces maisons, elles se ressemblent étrangement. Mais nos parents ont mis tout leur argent là-dedans. Au lieu d'acheter une petite maison à Brive-la-Gaillarde,
tout simplement,
qui aurait valu 100 fois plus aujourd'hui, ils ont construit des maisons qui sont en train de vaciller et de s'écrouler parce que mon père a eu la malencontreuse idée, il y a 60 ans, de planter devant l'entrée de la maison un peuplier.
Il était tout petit à l'époque.
Il était tout petit. Et quand nous retournâmes, mon frère et moi, à Sétif, bon sang, il avait tellement poussé l'arbre, 30 mètres il faisait, que ses racines ont attaqué les racines de la maison. Et ils ont fait vaciller la maison qui ressemblait à la tour de Pise. Voilà devant quelle ironie du sort, mon frère et moi, nous nous retrouvons alors que nous étions ici venus pour nettoyer la sépulture de nos parents et voir ce qu'on pouvait faire pour sauver la maison. Le dilemme identitaire se posait là.
Et là, c'est une image très forte que vous nous offrez, parce que à travers ce qui pourrait être très anecdotique, c'est quelque chose de beaucoup plus large qui trouve son expression
franchement,
ici.
Franchement, comme disait Anne, ce roman est né. J'avais aucune préméditation en allant là-bas pour écrire. C'est envoyé à la maison qui nous regardait de travers. Et ce peuplier avec son arrogance de 30 mètres qui nous disait « C'est chez moi ici. Je m'occupe de tout. Vous pouvez rester en France si vous le voulez. » Bon Dieu, je me suis dit, c'est une belle allégorie, ça. La guerre des racines. La guerre des racines entre l'arbre et notre maison.
Les racines, les branches d'ailleurs. Enfin, tout le vocabulaire, on le retrouve décliné dans le roman d'ailleurs. Alors, vous êtes amusé avec ça.
Ouais, vous connaissez la magie de l'écriture. Hein. Quand je me retrouve dans ce quartier, au centre de la gare, au centre du quartier, près de la gare de Sétif, pour ceux qui connaissent. Et je sais qu'il y en a deux ou trois parmi vous qui connaissent. Eh bien, le quartier, c'est dingue, était un vieux quartier qui s'appelait le quartier à bon marché. Les habitations étaient à bon marché. Et les Arabes ne sachant pas prononcer le bon, parce qu'il n'y a pas de on dans la langue arabe, ils prononçaient bon marché. Ce quartier à bon marché est devenu le quartier bon marché. Bon marché. Et donc, je me suis amusé avec ce bon marché. J'ai relu pas mal de choses sur le barbier de Séville. Et dans la rue de notre maison, il y a deux coiffeurs. Un qui s'appelle Coupe Sétif et l'autre qui s'appelle le barbier de Séville. Alors que Beaumarchais, il n'est jamais venu là-bas. L'Algérie n'existait pas en 1730 et Beaumarchais, il ne savait pas que ça existait non plus.
Pourtant, il y a de nombreuses personnalités qui sont allées là-bas.
À Sétif ?
Oui.
À qui tu penses ?
Je sais pas, potentiellement, en tout cas, qui ont laissé des
oui,
traces.
Oui, beaucoup. Le
des
duc
chanteurs, des choses
oui,
comme ça.
Oui, le duc d'Orléans. Voilà. Mais Beaumarchais, Beaumarchais. Et cet Algérien, ce coiffeur qui a appelé son salon le barbier de Séville, avait reçu un appel téléphonique un jour d'un chercheur américain de l'université de Cornell, dans le nord de l'Irlande, qui lui demandait « Alors monsieur, je fais ma thèse sur Beaumarchais, il paraît qu'il est venu chez vous. » Et le type a dit « Oui, oui, oui. » Et il marche beaucoup mieux, ce barbier de Séville, que le Coupe Sétif, qui en est resté à la version pauvre de Beaumarchais. Beaumarchais, qui était l'éditeur de mon ami François-Marie Arouet, dit Voltaire, aussi, que j'aime beaucoup.
Alors, Azouz Begag, vous avez un peu une idée du ton du livre d'Azouz, cet arbre ou la maison. Il y a aussi une femme que vous allez retrouver.
Oui, parce qu'en 2019, c'est la révolution en Algérie, l'Irak en arabe, mais l'Irak, comme la marque de vin, là, l'Irak. Et voilà qu'on arrive là-bas et puis tout le monde est dans la rue, quoi. Les gens sont ivres de liberté. Ils sont en train de crier qu'ils veulent la liberté et qu'ils n'en démordront pas. Et c'est cet élan vers la liberté de ce peuple qui ne veut plus être lié, ce peuplier, mais un peuple qui veut se délier, justement. J'ai trouvé après coup cette profondeur du mot peuplier. C'est cette image qui était formidable. Et cette fille qui est au milieu de ce peuple et dont les parents ont été massacrés pendant la décennie noire de l'Algérie 1990-2000. Ses parents ont été liquidés par erreur. Et c'était une fille qui a habité de la maison de mon père, gracieusement, et qui a bénéficié de quelques milliers de livres tout autour d'elle. Et elle s'est inventé des vies de fiction pour pouvoir survivre à la solitude et au malheur de la mort de ses parents. Et c'est une fille que je veux retrouver parce qu'elle s'appelle Rim, la gazelle blanche. Mais surtout...
Rime, d'un point de vue phonétique, c'est
oui,
assez poétique.
Oui, c'est très joli, avec un Y. Et parce que moi, je suis le Français arrogant qui a réussi là-bas, de l'autre côté de la Méditerranée.
Ce qui ne vous vaut pas des amis, hein,
ah, bien sûr. Et c'est cette fille qui, je croyais, m'espérait un jour, et à qui j'ai dit, je reviens te chercher. Mais non, 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 elle ne m'attendait pas du tout. Je savais que tu m'attendais. Non, c'est une fille qui s'est débrouillée toute seule, qui a fait son travail de survie et qui s'est réalisée dans la lecture de la littérature russe. Alors quand je dis à mon frère qu'elle est une spécialiste de Gogol, mon frère qui n'a jamais lu un livre et qui se refuse à lire celui-là aussi, alors vous voyez, il y a de la matière.
Il n'a pas voulu lire ce livre.
Non, 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 il n'a jamais lu de livre. J'ai un frère qui a 68 ans, qui n'a jamais lu de livre. Même celui-là, j'avais tellement peur qu'il me fasse du mal. Parce que je lui dis parfois, je lui envoie des coups de canif.
Oui, mais le portrait est malgré tout sympathique. Il y a quelques petites vannes.
Mais j'avais peur de...
Vous aimez votre frère, enfin, je veux dire.
Ouais, ouais. Et ben non, il m'a dit, je suis désolé, je ne lirai jamais, même si tu me l'offres. J'ai un drôle de frère, il ne parle qu'aux arbres, il ne parle qu'à la nature, et plus parce qu'il a des voisins qui ne sont pas très sympas, des voisins italiens, qui n'arrêtent pas de le traiter de bougnoule et de bicot. Tu parlais des juifs, ce mot juif qui t'est tombé sur la gueule un jour. Et nous, c'est le mot bougnoule, bon sang. Et première fois qu'un type m'a dit, toi le bougnoule, viens par ici, je regarde derrière moi. Et pourquoi il m'appelle bougnoule? Qu'est-ce que ça a de bougnoule? Ou alors bicot. Bicot, ça ne voulait rien dire du tout. Puis j'ai appris finalement à avoir plusieurs noms, quoi. Quand quelqu'un disait bougnoule, je disais, oui, que je peux vous aider. C'est dingue. Hein. Aujourd'hui, regardez le journal. Il y a deux policiers parisiens qui sont passés en jugement parce qu'ils avaient poursuivi un arabe il y a deux ou trois ans qui voulait le foutre à la Seine. Il appelle le bico, il ne sait pas nager. Il y a un type qui enregistrait ce truc. Et il y a deux ans, même pas quand on était à Nancy il y a quelques semaines, il y avait des policiers de la brigade d'anticriminalité donc qui avaient pendant trois ans martyrisé un de leurs collègues qui s'appelait Saïd. Parce que leur brigade s'appelait ni Gonzès ni Bougnoul, les blancs qui passaient en jugement. Ils ne voulaient pas de Gonzès ni de Bougnoul. Alors vous voyez, ce truc de Bougnoul, c'est comme... Alors des fois, on en a marre d'être appelé de Bougnoul, on a envie d'aller là-bas au pays des Bougnoul, en Algérie, et puis se dire, au moins, ils ont la même tête que nous, ils ne vont pas nous embêter. Que nenni ! Que nenni ! Parce que quand on arrive de l'autre côté, on est d'autres sortes de Bougnoul, mon sang. Et le jour où on va participer à la manif avec Rime, et qu'il y a un barbu qui a une barbe dingue, elle touche les genoux avec... Il y avait des petits bouts de sauce spaghetti dedans, je voyais. Et je trouvais ça bizarre, au lieu de la peigner élégamment, d'en faire quelques tresses, qui eut quelque peu relevé son image auprès de moi, il se laissait aller, et il me dit, dans la manifestation, un grand dé, mais gravement, il me dit, hey, toi, are you talking to me? Dis-tu le ministre de Sarkozy? Je dis, mais note, non, non. Et voilà que je me retrouve dans un étau et que je me voyais en train d'être lynché. Je me suis dit, Sarkozy, tout ça, ça va lui monter à la tête. Et le peuple commençait à se retourner autour de moi et je me voyais en train de grimper à la branche d'un olivier. Et qui vient me sauver? C'est celle... à qui j'étais venu dire « Je reviens te chercher, je savais que tu m'attendais ». C'est elle qui m'a extirpé. C'est un hommage aux femmes aussi.
Aux femmes aussi, ça c'est essentiel hommage. Pour le coup. Dans le livre, vous montrez vraiment que l'avenir du pays aussi, notamment pas seulement de la société, passe par les femmes et la prise du pouvoir par les femmes.
C'est cette fille qui est sur les barricades, dans un fameux tableau peut-être fait en 1830 par Eugène Delacroix, qui a le sein nu et qui guide le peuple, que c'est la liberté guidant le peuple. J'ai beaucoup fait les comparaisons entre cette fille. Elle, grâce à la littérature, elle nous amène dans au fin fond de la Kabylie, dans un bled paumé, où il y a deux ou trois amis de Marcel Mouloudji. Ils ont regardé sur Internet, vous allez trouver les amis de Marcel Mouloudji. Ils voulaient nous inviter à faire une conférence. Et alors... Donc on apprend la vie de Marcel Mouloudji. Eux, ils s'appellent Mouloudji maintenant pour faire venir des gens. Il y a tellement de jeunes Algériens qui veulent fuir ce pays pour aller à Brive-la-Gaillarde ou ailleurs qu'eux, ils se disent, si on fait vivre la littérature dans les montagnes au sommet, eh bien, les gens vont rester là parce que la culture, la littérature, ça garde sur place les gens. Ça donne envie de rester. Et puis finalement, de Mouloudji, on passe chez qui? On passe d'une femme qui s'appelle Aïcha Ben Mohamed. Vous savez qui c'est? C'est la grand-mère maternelle de Edith Piaf. C'est incroyable, non? Et ce ne sont pas des sottises, puisque vous pouvez les vérifier au moment où je vous parle sur Internet. Aïcha Ben Mohamed, la grand-mère maternelle d'Edith Piaf. Alors là, quand mon frère a appris ça, purée, il s'est senti français, hein, comme jamais. Et alors, il s'est dit, finalement, si Edith Piaf a bien réussi là-bas, et Marcel Mouloudji aussi, eh bien, que finalement, on n'est plus vraiment algérien, pas tout à fait français, mais on peut creuser son nid, c'est la morale de l'histoire. Là où on a une famille, là où on a une petite mémoire, là où on a les odeurs humides, des rues humides et puantes du vieux Lyon, mais qui sont nos odeurs quand même, et c'est là où nous allons mourir, probablement.
En tout cas, voilà, vous avez l'esprit de... J'aime bien présenter votre roman comme une fable. Il a un côté très fable, faussement naïf. Et en tout cas, moi, j'aime bien présenter ce livre, L'arbre ou la maison, paru aux éditions Julliard. C'est Odyssée de deux hommes de feuilles. Bah oui, il y a un agriculteur, un écrivain, forcément.
Oui, tu sais, parce que... désolé de dire son nom, j'ai un collègue d'Algérie qui s'appelle Zemmour. Eric Zemmour. Zemmour, ça veut dire un olivier en kabyle. Vous ne me croyez pas? Vérifiez sur Internet. Azemour, Zemmour, Olivier. Voilà, ce sont des gens qui défendent les Français de souche. Ils n'arrêtent pas de nous embêter avec
ça. Souche, ça aussi, c'est du vocabulaire d'arboriculteur, ça.
Ouais, c'est à nous, la France. Mais genre, attends, camarade, toi, tu es de souche, mais nous, on est des Français des branches. C'est-à-dire, on ouvre le spectre de ce que signifie être Français. Mais ce qu'il y a de bien entre vous, nous, les branches, on a besoin de vous, les souches. Mais vous aussi, vous avez besoin de nous pour perpétuer l'idée d'être Français. Nous avons un tronc commun. C'est ça, l'arbre France. Et dans ce tronc commun coule une sève. Et c'est celle de l'ivresse de la liberté qui court dans ce pays depuis 1789. Et surtout, celle que j'aime bien, c'est pour ça que je suis très ami avec François-Marie Arouet dit Voltaire, l'ivresse de l'esprit critique. C'est la France.
Merci beaucoup, Azouz Begay. L'arbre de la maison, c'est le titre de votre roman chez Julliard. Alors, il nous reste 2-3 minutes si vous avez des questions à poser à nos invités avant que ceux-ci puissent évidemment dédicacer leurs ouvrages respectifs. Alors, une question, une intervention dans le public, quelle qu'elle soit, sûr et certain, ou en tout cas, vous pourrez de toute façon leur poser évidemment les questions directement, voilà, directement sur les stands. Alors Anne Berest, votre carte postale, donc vous dédicacez, bah vous la dédicacez au stand L25, c'est bien ça. Azouz, l'arbre ou la maison, bah vous le signez, c'est au stand L3. Et Lilia, je crois que c'est L17, me semble-t-il, pour ce soleil amer. Voilà. En tout cas, merci à tous.
Merci à vous.
Bonne soirée ici à Brive. En tout cas, voilà, on a en tout cas de passer un très bon moment avec vous. Voilà. Merci beaucoup.